Très bien, 6h04, mardi matin, 21 septembre, lendemain des élections, avec un ciel partiellement nuageux, 16 degrés. On prévoit une belle journée. En tout cas, ce matin, c'est du soleil. Le maximum prévu, 25 degrés. L'humidex est à 28. Ça pourrait se couvrir cet après-midi. Et ça demeure nuageux pour la soirée, avec un minimum de 18 pour la nuit prochaine. Demain, mercredi, couvert une bonne partie de la journée, 27 degrés. L'humidex demain, c'est à 32. Et ce qui va nous amener de la pluie dans la soirée, très tard en soirée, et durant la nuit avec un minimum de 20 degrés. Bon, j'imagine que vous avez décidé d'aller vous coucher. Vous n'avez pas attendu les résultats des élections parce qu'évidemment, ça s'est étiré tard hier soir et durant la nuit. Alors, je vous donne les derniers chiffres qui peuvent encore un petit peu changer, puis je vais vous dire pourquoi. Donc, c'est un gouvernement libéral minoritaire. M. Trudeau fait élire 158 députés. Les conservateurs, 119. Le Bloc québécois, 34. Le NPD, 25. Cependant, il faut noter que les conservateurs, comme l'élection de 2019, obtiennent plus de votes que les libéraux, 34% contre 32,2%. Premier constat. Le deuxième constat, c'est que c'est du copier-coller quand vous regardez les chiffres par rapport à 2019. 2019, libéraux, 157 élus. Cette année, à date, là, 158. Conservateurs avaient 121, ils en ont 119. Et le Bloc en avait 32, ils en ont 34. Et le NPD est à peu près stable, 24 à 25. Ce qu'on remarque également, c'est qu'au niveau des votes, c'est 33 pour les libéraux au Québec seulement et 32 pour le Bloc québécois. Maxime Bernier à travers le pays, là, c'est 5 % et c'est moins de 3 % pour ce qui est du vote exprimé au Québec. Donc, une élection où le taux de participation est assez faible pour l'instant, 58 % la dernière fois, c'était 66 % faut maintenant comptabiliser le vote postal et les gens qui se sont présentés directement là, au bureau de scrutin là, principal. La mécanique qui est prévue par Élections Canada prévoit qu'aujourd'hui, on doit prendre les votes postaux et s'assurer que les gens n'ont pas voté hier ou encore par le vote par anticipation. Bref, que leur vote est unique. Et ça, ça peut prendre quand même un certain nombre de temps. Après quoi, on dépouille, ce qui fait que le résultat final, d'après ce qu'on voit, là, c'est possiblement tard aujourd'hui et plus réalistement demain. Est-ce que ça peut changer la donne? Peut-être dans certains comtés, puis je regarde, je faisais le tour ce matin, là, le comté de Trois-Rivières, là, on parle d'une quarantaine, d'une cinquantaine de différences entre le bloquiste Villemur et le conservateur Yves Lévesque, l'ancien maire de Trois-Rivières. Dans des comtés qui étaient surveillés d'un peu plus près, l'avance est beaucoup plus forte. Diane Le Boutillier est allée chercher quand même une majorité plus importante. On pensait que c'était serré avec le Bloc, ce qui n'est pas le cas. Hochelaga demeure entre les mains des libéraux. Il y a Ruth-Hélène Brosseau qui a perdu. C'était chaud en début de soirée, mais finalement, c'est autour de 900 voix. Là, j'arrondis les chiffres. Alors, est-ce que le vote postal peut, dans certaines circonscriptions, modifier les choses? Peut-être, mais pas tant que ça non plus. Parlons des chefs maintenant qui sont intervenus durant la nuit pour commenter. D'abord, Justin Trudeau, qui a déclenché l'élection. Pas grand monde qui voulait aller voter. Et voici ce qu'il avait à dire.
On vous entend quand vous dites que vous voulez plus de places en garderie et un système de santé encore plus fort, du logement abordable et des bons emplois verts, de continuer d'avancer sur le chemin de la réconciliation, des investissements pour la classe moyenne et pour tous les gens qui travaillent fort pour en faire partie. Je vous ai entendu. Ça vous tente plus qu'on parle de politique ou d'élection. Vous voulez qu'on se concentre sur le travail qu'on a à faire pour vous.
J'ai quasiment envie de vous dire, quand vous écoutez la dernière phrase, là, je vous ai entendu, ça vous tente plus qu'on parle de politique ou d'élection. Vous voulez qu'on se concentre sur le travail qu'on a à faire pour vous. C'est ce que les Canadiens voulaient, pas d'élection. Et de continuer à travailler, parce que tout ce que le gouvernement Trudeau a fait durant la pandémie a été entériné, soutenu. Donc, l'élection, c'est un calcul politique. C'était les astres sont alignés, puis je vais aller me chercher un gouvernement majoritaire. Ce n'est pas le cas ce matin. Et la plupart des commentateurs que vous allez lire pense que Justin Trudeau ressort affaibli de cette élection, qui va diriger pendant un certain temps, mais il ne peut pas nous ramener en élection dans 18 mois, là. Un autre 600 quelques millions pour aller prendre le pouls de l'opinion, là. Puis est-ce que les libéraux, sentant peut-être la soupe chaude, vont penser à changer de leader? On écoute maintenant le chef conservateur Erin O'Toole.
La pandémie a augmenté les petites différences entre nous. Elle a aussi aggravé la division chez les Canadiens. Malheureusement, cette élection n'a fait qu'empirer les choses. Mais je suis ici ce soir encore plus déterminé envers ce merveilleux pays.
Bon, les conservateurs, c'est un peu frustrant et beaucoup de gens m'ont écrit durant la soirée hier et au cours de la nuit en disant comment ça se fait que la proportionnelle n'a pas été instaurée. Puis dites-vous une chose, ça n'arrivera pas non plus dans le mandat actuel. Les conservateurs sont allés chercher plus de votes. Le Parti vert n'a pas d'élus, mais le Parti vert est allé chercher quand même, quoi, c'est 2% des voix, peut-être un petit peu plus, là, je vais vérifier pour être certain, mais Maxime Bernier, c'est autour de 4-5%. Donc, ces partis-là ne sont pas représentés à la Chambre des communes. Alors, c'est sûr que c'est frustrant pour les conservateurs, mais en même temps, on peut dire que les forteresses au Québec ont été préservées. Puis on peut penser à Gérard Deltel, on peut penser à Martel, Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans la région de Québec aussi. Alors, il n'y a pas vraiment de surprise, je vous le dis, là, c'est un copier-coller de la carte électorale de 2019. Maintenant, le chef du NPD, Jagmeet Singh.
Pour les Québécois et Québécoises, peu importe le nombre de députés dans notre caucus, dans notre équipe, je veux vous assurer qu'on va continuer de se battre pour vous. Comme on a fait pendant la pandémie, on était là pour vous.
Voilà. Alors, le NPD qui fait un peu de surplace pensait peut-être aller chercher deux circonscriptions au Québec. Alexandre Boulris l'a emporté facilement. C'est un château fort et comme je pense on peut le constater, c'est une victoire personnelle. C'est quelqu'un qui est, le phare du NPD au Québec. C'est le numéro 2 de son caucus. Puis c'est sûr que les gens votent pour lui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un effet Jagmeet Singh, mais on le voit avec Ruth Hélène Brosseau. Malheureusement pour elle, c'est un retour qui a tardé un peu à se concrétiser. Mais hier soir, au début, en tout cas, c'était extrêmement serré, puis même plus ça avançait. Et là, le vent tourné, c'est finalement le bloquiste qui l'a emporté. Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois.
Presque au terme de cette soirée électorale, on est toujours en pandémie, avec le même gouvernement minoritaire. On a envie de dire tout ça pour ça. Pas de gagnant, pas de perdant. Certainement un jugement sévère des gens qui se diront demain matin, mais qu'est-ce que c'était cette histoire?
Oui, et le Bloc doit être déçu, parce que le Bloc avait de grandes aspirations, une espèce de poussé dans les sondages après le débat en anglais et la fameuse question sur le racisme et les lois discriminatoires du Québec. Quand vous regardez ça ce matin, oui, peut-être deux députés, mais on est loin, là, par exemple, du 40 députés qui étaient souhaités. Alors, on en a 34. En termes d'expression du vote, c'est serré avec les libéraux, mais ça n'a pas décollé autant qu'on pensait, ce qui fait qu'il y a des comtés qui étaient visés, là, je pense évidemment Gaspésie-de-la-Madeleine, Hochelaga, ça demeure aux mains des libéraux dans les deux cas. Pour ce qui est du scrutin, je sais qu'il y a eu des problèmes hier. Durant la journée, ça allait pas si mal parce que l'affluence n'était pas trop grande, mais dès que les gens finissant de travailler se présentent, puis on a vu ça sur le plateau, là, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit furieux, puis en quelque part, c'est pas normal d'attendre une heure et demie pour aller voter dans une élection fédérale. Je veux dire, ça n'a pas de sens, là. Et l'effet, puis j'admire les gens qui ont attendu, là, qui ont dit « ben non, mais je veux y aller ». Une auditrice m'a expliqué qu'elle est allée à son bureau de scrutin 2-3 fois hier. L'attente était interminable. Dans des cas, peut-être durant la journée, c'était plus vite, là. Mais je ne sais pas, c'est en termes d'organisation. Je comprends qu'on manquait de bénévoles, la pandémie, puis tout ça. Mais c'est sûr qu'on a eu des ratés dans l'organisation. Là, on verra maintenant l'efficacité du vote postal. Complétons un peu le survol électoral. Il y a un certain nombre de constats qu'on peut faire. Je vous le disais tantôt, M. Trudeau a énormément de pression. Deuxième gouvernement minoritaire. Il ne peut pas nous replonger en pleine course électorale dans 18 mois. Et les libéraux n'aiment pas trop ça, quelqu'un qui ne livre pas la marchandise à 100 %. Et c'est son choix, l'élection, là. Personne ne voulait de ça. Puis il nous a plongé dans cette campagne électorale éclair là, de 36 jours. Alors déjà, on spécule sur les aspirants à la succession de M. Trudeau, Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, Mme Freeland, également François-Philippe Champagne, qu'on a vu hier à la télé, qui a fait le tour de son comté et qui a été réélu facilement. Deuxième constat qu'on peut faire, je dirais à deux volets. Un, l'intervention du premier ministre Legault dans cette élection n'a eu aucun effet. Puis là, il y a un message dans ça. Les Québécois n'aiment pas se faire dire quoi faire, ou en tout cas n'aiment pas se faire suggérer des choses par le premier ministre du Québec dans le cadre d'une élection fédérale. Je vous le dis là, vous regardez les résultats ce matin, effet Legault nul. Que va faire Justin Trudeau? Comment va se bâtir cette relation entre le Québec et le nouveau gouvernement fédéral? C'était risqué, là, de dire « j'aime pas les libéraux et leur vision de la vie, puis leur approche centralisatrice qui se mêle des compétences du Québec ». Et M. Trudeau l'a répété à ce micro, entre autres, en disant « je vais transférer des sommes en santé, mais il y aura des conditions ». Alors, quelle sera la relation? Je comprends que le discours officiel, ce sera, on va travailler dans l'intérêt des Québécois, puis ça va être beau, puis la politique, c'est ça. Mais c'est sûr que ce genre de sortie, qui n'était pas nécessaire, entre vous et moi, là, peut laisser quand même un certain nombre de traces. Chez les conservateurs, est-ce qu'on va garder M. O'Toole? Je ne peux pas croire qu'on va se lancer encore dans une course à la direction. Je vous dirais aussi que le grand défi des conservateurs, c'est l'ADN du parti. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que tu fais avec ceux et celles qui sont des sceptiques, des climato-sceptiques, des gens qui sont en faveur de reprendre le débat sur l'avortement, puis une volonté, entre autres au Québec, d'avoir des positions un peu plus au centre? Et comment M. O'Toole va rester à la tête du parti, puis va être capable, de peut-être espérer l'emporter la prochaine fois? Jack Meeting, sympathique, mais le NPD, puis je pense que c'est pas lié à sa personnalité. Il y a des limites avec le NPD. Et puis c'est toujours la même chose. Ça se promène entre le NPD, puis à travers le Canada, les libéraux. Et donc, c'est le parti qui a beaucoup d'idées, mais qui ne sera jamais porté au pouvoir pour les réaliser. Puis Maxime Bernier, on l'a peut-être sous-estimé au départ, je vous dirais surévalué. Il s'est fait planter dans son comté en Beauce, et à travers le Canada, c'est autour de 5 %. C'est quand même un facteur. Et je dirais, quelqu'un qui a fait ça solo, 5 % à travers le pays, c'est quand même pas à négliger. Est-ce que c'est le fruit du courant anti-vax et l'effet de la pandémie? Est-ce qu'il y aurait eu autant de votes? On peut bien spéculer, mais disons que c'est un phénomène qui n'est quand même pas à négliger. Maintenant, dans les autres nouvelles... Je pense que ça, c'est une maudite bonne nouvelle. Un, puis deux, c'est la nouvelle du jour, pratiquement plus que l'élection. C'est le contrat que le Québec est allé chercher, Hydro-Québec, là, avec l'État de New York. Donc, on avait déjà une entente avec le Massachusetts. Et là, c'est Québec qui devient le fournisseur pour un contrat de 25 ans d'exportation d'électricité. On va parler avec la présidente de Hydro-Québec tantôt, Mme Brochu. Il y a bien des questions qui demeurent. D'abord, un, on va générer combien de profits avec ce contrat-là? Puis là, je sais, on nous donne beaucoup de chiffres. Voici ce que ça représente. C'est l'équivalent de remplacer des vieilles énergies pour 1 million de foyers, donc l'électricité, l'effet positif sur l'environnement. On a fait une entente avec les Mohawks qui sont partenaires. Mais en même temps, est-ce que ça veut dire pour nous qu'on peut gérer ça avec des surplus ou s'il faut investir? Alors, c'est sûr que c'est une maudite bonne nouvelle en termes de contrat, mais en même temps, il y a, disons, des points d'interrogation. Pas sûr qu'on va avoir toutes les réponses, mais on va essayer de poser quand même les questions. Et dossier COVID, D'abord, on vous le disait hier matin, le vaccin, selon les recherches de Pfizer, s'avère positif chez les enfants de 5 à 11 ans. C'est une dose plus petite, mais il n'est pas encore approuvé. Et je regardais hier aux États-Unis, il y a beaucoup de nervosité, beaucoup de parents qui se disent, même si la Food and Drug l'approuve, ce vaccin-là pour les enfants, ils ont des réticences. Et même des gens qui ont été doublement vaccinés, qui ne sont pas certains que c'est une bonne affaire pour leurs enfants. Dr. Weiss disait l'autre jour, n'oubliez pas que beaucoup de vaccins sont administrés aux enfants. Mais il y a cette espèce de réticence. Alors que ça arrive au moment, puis là je reviens au Québec, où les cas d'enfants de moins de 10 ans augmentent. Puis on est dans la saga, là, arrivée ou retour en service de garde, la reprise à l'école. Donc, quand vous regardez les chiffres, là, il y a 147 nouveaux cas par jour chez les jeunes Québécois de moins de 10 ans. C'est une augmentation de 13 % en une semaine. Et ils sont plus nombreux que les 20-29 ans. Ce n'est pas une catastrophe, là, quand vous regardez au niveau des hospitalisations. Il y en a 16 à l'hôpital chez les moins de 20 ans, puis 9 chez les moins de 10 ans. Donc, ce sont des cas rares. Mais c'est sûr qu'on va en avoir de plus en plus et que ça, ça inquiète. Je regardais à Sherbrooke, là, on ferme une école. Puis on n'est qu'à la quoi, presque fin septembre. Là, on va arriver vers des températures où les gens vont être plus à l'intérieur. Est-ce qu'il va y avoir plus de propagation? Encore là, la vaccination est un immense succès au Québec. Quand tu dis que tu as 88 % des gens qui ont au moins une dose, puis au-dessus de 80-quelques % qui ont deux doses, c'est quand même pas banal. Mais il va rester aussi le volet de la vaccination obligatoire. Tout indique que cette semaine, on va rendre public le décret puis nous expliquer comment va fonctionner pour le réseau de la santé la vaccination obligatoire. Puis un mot sur le Texas en terminant. On apprend qu'une première poursuite, en fait, c'est deux poursuites là, qui sont déposées contre un médecin qui publiquement a avoué avoir pratiqué un avortement. Alors, c'est quelqu'un de l'Arkansas qui a déposé une poursuite. C'est un avocat qui dit « Je ne suis pas un pro-vie, mais en même temps, je veux qu'on respecte les lois. » Et la loi qui a été adoptée, qui va se ramasser en Cour suprême, mais elle est en vigueur, prévoit même que si jamais il l'emporte, il y a une espèce de boni pour avoir porté plainte et avoir déposé cette poursuite de 10 000 Puis il y a un deuxième personnage qui a décidé, lui c'est un vrai pro-vie, là, de déposer une plainte. Et dans les deux cas, ils ont l'intention de se représenter eux-mêmes devant les tribunaux. 6h23, la 15, monsieur.